Écouter, c'est permettre à l'autre de déplier ses idées, de déployer sa pensée.
Permettre à l'autre de déplier ses idées.
Je m'appelle Alexandre Zermati et je vous propose chaque semaine une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, je reçois Louis Vareille. Louis pratique la réuniologie. Il aide les entreprises à améliorer leur culture de la réunion. Louis nous explique ce qu'est la réuniologie, quels sont les enjeux, comment améliorer dès maintenant ses propres réunions et ce que la réunion dit de la culture d'une entreprise. Je vous laisse tout de suite avec mon invité.
Je répare les réunions et je soigne la réunionite. Et en fait, j'ai une vraie passion pour les réunions. Les bonnes, bien sûr. Et donc, c'est une passion qui est ancienne. Je pourrais même dire qu'elle date d'il y a 40 ans. J'ai 58 ans aujourd'hui. Et depuis toujours, en fait, j'ai une passion pour le mouvement, pour l'action, et notamment si elle est collective. Et en même temps, je dirais, j'ai une difficulté avec la décision. Donc en fait, la réunion, depuis 40 ans, est l'endroit où j'apporte une vision, j'apporte de l'énergie et j'utilise le collectif pour m'aider à prendre les décisions.
Et j'utilise le collectif pour m'aider à prendre les décisions.
Qu'est-ce que c'est que la réuniologie ?
Alors la réuniologie, c'est le truc que j'ai inventé quand j'ai quitté Danone, début 2017, et j'ai eu cette idée de consacrer une activité de consultant à l'amélioration des réunions. Et en fait, j'ai cherché un mot qui soit à la fois puissant, directement compréhensible, et puis le hasard a voulu que, alors que j'étais en train de batifoler intellectuellement, il y a ce mot qui est tombé. Alors pour tout vous dire, je me suis précipité sur Google pour voir s'il avait déjà été utilisé. Eh bien non. Donc pour tout vous dire, je l'ai déposé. Donc l'école internationale de la réunionologie, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2017 avec une marque déposée. C'est ça la réunionologie. Alors quand je dis réunionologie, peut-être vous posez la question, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est l'école, donc c'est un aspect formation. Mais j'ai une ambition encore plus élevée, c'est, mais pourquoi pas créer un mouvement de pensée. Alors, ce n'est pas l'école de Palo Alto, mais pourquoi pas redonner envie au plus grand nombre d'aller chercher toute la puissance qu'on peut avoir dans une réunion.
D'aller chercher toute la puissance qu'on peut avoir dans une réunion.
Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Le premier, très clairement, c'est celui que vous venez d'évoquer. C'est un enjeu de productivité. Il y a une étude qui a été faite par OpinionWay en avril 2017, que je cite souvent, il y en a eu d'autres, mais celle-ci indique qu'en France, un manager passe 9 heures par semaine en réunion. Et que dans 50% des cas, il sort de cette réunion en disant « c'était pas vraiment efficace ». Donc il y a véritablement un enjeu de productivité. Mais je pense qu'il y en a un deuxième qui est presque plus important, qui est un enjeu lié à l'engagement des individus. C'est terrible de passer 9 heures par semaine en réunion et une fois sur deux se dire « mais j'aurais mieux fait d'être ailleurs ». Ce temps a été mal utilisé. Je n'ai pas pu prendre la parole. Ce n'était pas clair ce pourquoi nous étions là. Donc tout ça, ça crée de la frustration. Donc il y a un enjeu clairement de productivité, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de qualité de vie au travail et d'engagement.
C'est terrible de passer 9 heures par semaine en réunion et une fois sur deux se dire « mais j'aurais mieux fait d'être ailleurs ».
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est… Enfin, quand je veux vraiment commencer, si vous voulez vraiment commencer, commencez par avoir le courage d'évaluer vos réunions. Commencez par vous poser la question collectivement à la fin de la réunion « mais qu'est-ce qu'on pense du moment que nous venons de passer ensemble ? Est-ce qu'on a été productif ? Est-ce qu'on s'est écouté ? Est-ce que ça a été agréable ?» Et donc, c'est par là qu'il faut commencer. Oser, je disais parfois, oser le progrès. Donc, oser se regarder faire et partager avec un collectif ce que l'on vient de faire. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et forcément, tout le monde a plein d'idées extrêmement concrètes pour améliorer les réunions. La seule difficulté, c'est qu'on n'est jamais formé collectivement à conduire des réunions et que finalement, toutes ces bonnes idées que l'on a, ben on se les garde pour soi. On subit la mauvaise qualité de certaines réunions et on ne bouge pas. Donc, commençons par évaluer nos réunions.
C'est qu'on n'est jamais formé collectivement à conduire des réunions.
Alors, d'abord, parlons méthode avant de parler outils. Donc, j'insiste sur la manière avec laquelle il convient d'oser évaluer ce qu'on vient de faire. Et donc ça, idéalement, ça se fait dans la réunion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pouvoir faire émerger des idées pour faire mieux la prochaine fois. Je prends un exemple. Vous avez une réunion et vous vous rendez compte, enfin, quelqu'un dit, mais c'est un peu couillon, ça aurait été quand même plus puissant si tout le monde avait pris le temps de lire les documents qu'on a reçus 48 heures à l'avant. Eh bien, lorsque vous allez faire ce tour de table de fin de réunion, ça vaut le coup de se dire, mais qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois ? Et quelqu'un va dire, ben, lisons les documents. Donc là, vous allez prendre la décision collectivement, une sorte d'engagement devant le groupe, que de lire ces documents. Donc ça, c'est la méthode. Et après, il y a des outils qui existent. Donc effectivement, il y a des gens qui ont développé des applications que j'appelle asynchrones, donc qui ne sont pas liées à l'événement lui-même, alors que l'évaluation que l'on fait en fin de réunion, c'est une évaluation synchrone, mais il y a des outils qui existent. Et moi, il y en a un que j'aime par-dessus tout, qui est inspiré des méthodes agiles, et qui s'appelle Roti Express. Alors en deux mots, Roti, ce n'est pas le roti à cuire, ce n'est pas le roti de bœuf, c'est Return on Time Invested. Donc c'est demander à la fin d'une réunion ce que l'on pense de la qualité du temps qu'on vient de passer. Et cette petite application, qui peut être complètement robotisé, donc qui envoie automatiquement à la fin de chaque réunion ce petit questionnaire, demande à chaque participant, sur une échelle de 1 à 5, comment vous notez votre réunion. Et si vous avez un commentaire, quel serait-il ? Et le commentaire, forcément, à nouveau, ouvre pour chaque participant l'opportunité à dire, ben, écoutez, la prochaine fois, on pourrait juste ajuster ce truc.
Sur une échelle de 1 à 5, comment vous notez votre réunion ?
Alors moi, je ne suis pas un expert de l'agile, donc c'est peut-être pas. Enfin, je vais essayer de répondre avec ce que je sais. Moi, ce que je sens de l'agile, c'est une méthode qui est décomplexée. C'est-à-dire qui va créer du changement et qui est capable de remettre en question des pratiques habituelles. Deuxièmement, décomplexée aussi parce que elle libère la parole. Et comme elle est inspirée des méthodes de progrès continu, le lean management, le kaizen, elle s'interroge sur l'évaluation. Et elle est dans un processus qui consiste à identifier quel est le petit pas que je peux faire dans mon processus de conduite de projet, de conduite de réunion, ce petit pas qui me permettra de faire mieux la prochaine fois. Et c'est comme ça, donc j'ai cité le roti. Le roti est bien un outil qui a été créé dans le monde de l'agile, puisqu'il s'agit à la fin d'une réunion, dans un monde, comme je disais, décomplexé, où la parole est libérée, d'interroger les participants sur ce qu'ils ont pensé de la réunion.
C'est une méthode qui est décomplexée.
J'ai décrit le modèle de la réunionologie. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Et dans le modèle, je considère que en appliquant un certain nombre de gestes, de disciplines, de rituels, on va faire que chaque réunion va devenir un moment à la fois productif, donc qui va produire un résultat, engageant, c'est-à-dire que les acteurs vont contribuer, vont être même en sécurité psychologique pour contribuer, on y reviendra peut-être, et puis apprenant. Un moment apprenant, ça veut dire qu'à l'issue de la réunion, on aura individuellement et collectivement appris quelque chose pour faire mieux la fois suivante. Et là, je reviens sur l'évaluation. Donc, la promesse, c'est des réunions productives, engageantes et apprenantes. Et en fait, dans ce modèle, je cite trois fondamentaux et trois secrets. Alors, les trois fondamentaux, le premier, c'est qu'il y a un cadre. cadre, je reviens à cette notion de règle ou de discipline. Ensuite, deuxième fondamental, c'est la présence. Quand je suis là, je suis là. Ou quand j'y suis, j'y suis. Donc, ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui, nous assistons tous à des réunions où la moitié des personnes présentes ont leur laptop ouvert, que peut-être l'autre moitié a son smartphone pas loin et s'attend avec impatience à avoir une vibration, une notification qui lui dira que des choses parfois importantes, mais très souvent plutôt des choses qui n'ont pas d'intérêt à être source d'interruption dans la réunion. Et le troisième fondamental, c'est l'écoute. C'est lié à la présence, mais la présence, c'est moi, je suis présent. Donc c'est moi avec moi, l'écoute c'est moi avec toi ou moi avec les autres. Et donc l'écoute c'est aussi quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Écouter c'est permettre à l'autre de déplier ses idées, de déployer sa pensée. Et il y a une américaine qui s'appelle Nancy Klein qui a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Time to Think, le temps que j'offre à l'autre pour qu'il puisse réfléchir. Donc l'écoute, c'est vraiment offrir un espace où chacun va pouvoir déplier ses idées, déployer sa pensée. Donc ça, c'est les trois fondamentaux. Un cadre, la présence, l'écoute.
L'écoute, c'est moi avec toi ou moi avec les autres.
Donc maintenant, je vais vous parler des secrets. Donc le premier secret, je l'intitule « Commencer par la fin ». Quand je conçois une réunion, quand je démarre une réunion, quand je démarre un point dans une réunion, je dois être capable de dire de façon extrêmement claire ce que je veux obtenir. Quel résultat je cherche à obtenir en embarquant les personnes qui sont avec moi. C'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est tous acteurs. Qu'est-ce que je peux faire avant la réunion, pendant la réunion, après la réunion, pour que les personnes qui ont participé à la réunion ou qui vont participer soient des contributeurs. Donc avant la réunion, qu'est-ce que je peux faire pour que les personnes qui vont arriver à la réunion se préparent, arrivent préparées. Durant la réunion, les personnes sont là. Qu'est-ce que je fais en termes d'animation pour qu'ils soient des contributeurs ? Et troisième chose, après la réunion, de quelle manière j'établis une liste extrêmement claire des actions sur lesquelles les différents participants se sont engagés pour être sûr qu'ils vont être acteurs après la réunion. Le troisième, finalement, on l'a déjà abordé, c'est cette fameuse évaluation. De quelle manière je m'organise pour identifier des pistes pour faire mieux la prochaine fois. Moi, je vois une réunion comme un champ de résonance. Et résonance, alors c'est facile sur un podcast, mais je vais signaler explicitement la faute d'orthographe, RAISO2NANCE. Un champ dans lequel des individus vont pouvoir raisonner collectivement. Et donc, si l'on veut que les personnes puissent raisonner collectivement, il faut qu'ils soient dans un état d'esprit qui leur permette de libérer leurs paroles. Et les Américains, sans doute aussi des Français, ont travaillé sur le sujet et ont fait émerger cette notion de sécurité psychologique. Et notamment, il y a deux équipes qui ont travaillé là-dessus, une équipe à Harvard et puis surtout des gens de Google. Les gens de Google sont allés explorer ce qui faisait une équipe performante. Et en fait, ils se sont rendus compte. Mais ce n'est pas le QI des gens. C'est plutôt le QE, quotient émotionnel, de l'équipe. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui était essentiel, c'est que les participants à une équipe, et donc a fortiori à une réunion, soient dans un état de sécurité psychologique, c'est-à-dire se sentent autorisés de prendre des risques interpersonnels, donc des risques dans leur manière où ils vont interagir avec les autres. Poser des questions, dire ce qu'ils pensent, oser demander. Et cette sécurité psychologique, est un élément essentiel pour faire que la réunion puisse être productive, pour que les gens soient engagés, et peut-être à la fin, pour que la réunion soit apprenante. Donc, l'important dans une réunion, c'est de mettre en œuvre des techniques qui vont permettre, dès le démarrage, de créer cette sécurité psychologique qui va permettre à chacun d'être un véritable acteur.
C'est que les participants à une équipe soient dans un état de sécurité psychologique.
Là, il me semble qu'on touche un point qui va au-delà finalement de la réunion, mais peut-être aussi de la culture d'une entreprise.
Alors, c'est clair. Et alors, ce qui est amusant, c'est qui, de l'œuf ou de la poule ? Comme moi, je suis réuniologue, je m'intéresse aux réunions. C'est mon focus. Et donc, bien évidemment que quand on s'intéresse aux réunions, on va indirectement interroger l'organisation sur d'autres dimensions. Bon. Il y a un coach systémique qui s'appelle Alain Cardon. Il dit que la réunion est un lieu d'apprentissage des micro-compétences du leader. Il parle d'écoute, il parle de cadencement, il parle de décision. Donc tout ce que l'on dit aujourd'hui sur le champ de résonance d'une réunion, j'ai envie de jouer avec les mots, mais ça va résonner hors de la réunion. Et en fait, pour tout vous dire, je ne pensais pas venir jusque-là aujourd'hui, mais je suis en train d'écrire un livre sur les champs de résonance. Et les champs de résonance synchrones, donc qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est là, mais aussi le champ asynchrone. Et une organisation telle que vous venez de le décrire, c'est un champ. Un champ dans lequel il y a des individus et qui est donc à la fois peut être synchrone ou asynchrone. Et donc c'est évident que, et je reviens à l'évaluation, venez, vous allez voir, si une organisation a le courage d'offrir l'opportunité à quiconque en réunion de partager ce qu'il a ressenti, de partager des idées pour faire mieux la prochaine fois en réunion, la bonne nouvelle, c'est qu'il l'aura fait en réunion. Parce que s'il ne le fait pas en réunion, et notamment si la réunion ne s'est pas très bien passée, il va le faire à la machine à café. Et les Américains appellent ça le Meeting Recovery Syndrome. Le syndrome de la récupération après réunion. Et je pense qu'on a tous été confrontés à des situations où juste après la réunion, les gens sortent avec tellement de frustration qu'ils n'ont pas pu exprimer, ils vont pile à la machine à café, ils vont passer par des demi-heures, voire des heures, à dire « Mais attends, mais cette réunion, c'était nul. Martine a encore pris la parole en permanence. J'ai voulu parler, on m'a coupé la parole. » Donc toute cette frustration, tout ce qui a été vécu, va se retrouver ailleurs. Donc tout ça pour dire qu'il y a une sorte d'interaction permanente entre ce qui va se passer dans l'espace clos d'une réunion et ce qui va se passer plus largement dans l'organisation. Et que tout ce que l'on va apprendre dans cet espace clos de la réunion, qui peut être un laboratoire d'apprentissage, va se retrouver hors de la réunion.
Et les Américains appellent ça le Meeting Recovery Syndrome, le syndrome de la récupération après réunion.
Bien conduire une réunion, c'est pas uniquement une question d'organisation. Donc l'organisation, l'anticipation va jouer un rôle clé. Mais je pense qu'il y a une autre dimension, et je reviens sur un des fondamentaux que j'ai évoqué tout à l'heure, sur l'écoute. Donc pour moi, quelqu'un qui va être performant dans son animation de réunion, c'est quelqu'un effectivement qui va être organisé, qui va structurer sa prise de parole, qui va construire un ordre du jour qui se tient, qui va être capable de calculer des durées de sujets pour qu'on soit près de quelque chose de réaliste. Mais c'est surtout quelqu'un qui va rentrer en réunion avec la conviction que la force est chez l'autre. S'il vient là pour exposer sa pensée, imposer sa pensée, en empêchant ou en réduisant la prise de parole des gens qui sont présents, il va perdre. Donc il y a organisation, mais je dirais il y a aussi une question de mindset, de réglage mental. Est-ce que je me mets à disposition du collectif pour tirer le meilleur de ce collectif ?
Est-ce que je me mets à disposition du collectif pour tirer le meilleur de ce collectif ?
Alors, Tout à l'heure, vous disiez que j'étais vétérinaire, donc en fait, je suis réuniologue. Donc en fait, ça commence toujours par un diagnostic. Donc je demande à aller dans l'organisation à observer des réunions. Donc je me mets dans le fond d'une salle et j'observe. Et je vois plein de choses. Sur la base de cette observation, je fais un diagnostic et j'identifie les leviers, on en a parlé tout à l'heure, sur lesquels il convient d'agir dans cette organisation. Et donc là, je lance des sessions que j'appelle expérimentation, appropriation. Donc je fais découvrir les gestes de la réuniologie et je les fais approprier par les gens. Ensuite, très souvent, je commence par un groupe pilote et après j'insiste pour monter au niveau du comité de direction. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc c'est après avoir embarqué un groupe pilote, c'est changer de niveau et voir de quelle manière le comité de direction accepte, lui, de s'approprier ses gestes pour être modèle, comme nous l'avons dit. Et ensuite, je fais du suivi, c'est-à-dire que pour les gens qui ont été formés, j'anime des ateliers, j'ai même développé un concept de consultation. Donc, les gens que j'ai formés me sollicitent par téléphone et en une demi-heure, je suis capable de les accompagner dans la préparation d'une réunion à enjeu. Et ce que j'aime faire, donc ça c'est tout un cycle, donc diagnostic, groupe pilote, comité de direction, déploiement, suivi, atelier, consultation. Pour les comités de direction, j'aime bien faire du coaching live, c'est-à-dire une fois que les gens ont été formés, je retourne dans leur comité, j'assiste au comité, j'essaie d'être complètement, comment dire, embarqué dans leur dynamique, et puis de temps en temps, je leur recommande des ajustements. Et pour tout vous dire, ce matin, j'étais dans une très grande entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir prendre la parole pendant une heure, tout compris, je dirais, mais moi j'ai pris la parole une demi-heure sur ce que je fais, sur les secrets de la réunionologie. Et j'ai commencé par un truc que j'aime bien raconter, qui est la chose suivante. Il y a 2 ans, enfin un peu moins, je suis allé au musée des arts décoratifs au Louvre. C'était une exposition consacrée à Christian Dior, le couturier. Et il y avait une phrase que j'ai notée, une robe telle que je la conçois est une architecture éphémère destinée à exalter les proportions du corps féminin. Ben moi, les robes, je ne connais pas très bien. Mais les réunions, une réunion telle que je la conçois est une architecture éphémère destinée à exalter la puissance de l'intelligence collective. Donc chaque réunion est unique. Et qu'elle est juste là pour faire émerger toute la puissance que l'on peut trouver dans l'intelligence collective.
Une architecture éphémère destinée à exalter la puissance de l'intelligence collective.
Est-ce que vous avez un dernier message pour nos auditeurs?
Moi, je pense toujours, je crois que c'est de la boire à ses enfants, je n'ai pas la phrase exacte, mais creusez, prenez de la peine. Parce qu'en fait, ma conviction, c'est que être capable d'être un acteur puissant dans une réunion, c'est une clé incroyable pour embarquer des collectifs, pour impacter par ses idées, pour développer des individus. Donc, quiconque décide de travailler dans une entreprise devrait s'intéresser aux pratiques de réunion. Et quand je dis pratique, c'est bon, lire. C'est peut-être aller chercher ce qui peut se voir sur des blogs ou sur LinkedIn. Moi, j'écris pas mal de choses. Mais c'est aussi, dans toute réunion, observer ce qui se passe. Et réunion professionnelle, mais aussi réunion du club de tennis, réunion de copropriété, observer la dynamique. Donc, prendre possession de toutes ces petits gestes, toutes ces petites choses qui vont transformer les réunions. Et sinon, j'ai un message. Bon, c'est la moitié d'une blague. Mais j'ai tendance à dire que la réuniologie devrait être au business school ce que la pédologie, l'étude des sols, est aux écoles d'agriculture. Quand on sait qu'un manager va passer 25, 50%, 75% de son temps professionnel en réunion, pour peu qu'il soit haut dans l'organisation, mais qu'il s'intéresse effectivement à ses pratiques et à développer une véritable un vrai savoir-faire dans la manière avec laquelle il va préparer, animer et suivre des réunions.
Merci à Louis d'avoir accepté mon invitation. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à en parler autour de vous ou à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'AZAP. Thank you.